Le journal Antoine Geoffin.
Bonsoir à tous. La colère des professions libérales, grande journée de manifestation aujourd'hui à Paris contre la réforme des retraites. Marie Viennot nous emmènera dans le cortège parisien. Les décrocheurs de Lyon ont relaxé ce soir. Ils avaient subtilisé le portrait d'Emmanuel Macron dans une mairie lyonnaise pour dénoncer son inaction pour le climat. Compte rendu de Mathilde Imberti. Et puis on vote demain en Israël, élection législative en guise de test pour le Premier ministre Netanyahou. Campagne inédite et surprenante, nous dira une journaliste israélienne. Robe noire, blouse blanche et uniforme côte à côte dans les rues de Paris aujourd'hui. Après la RATP vendredi, ce sont les professions libérales qui se sont mobilisées cet après-midi pour dire non à la réforme des retraites. Plusieurs milliers de manifestants à Paris, médecins, infirmiers, avocats, mais aussi pilotes, hôtesses ou stewards, tous sont venus défendre leur caisse de retraite autonome. Si le gouvernement parvient à mettre en place un régime universel à point, celle-ci disparaîtrait, leur contenu irait au régime universel. Impensable, répondent les manifestants. Reportage dans le cortège parisien signé Marie Viennot.
Les robes noires posent pour les photographes sur les marches de l'Opéra Garnier. Regroupés par barreaux de Béziers, de Toulouse, Valenciennes, Nantes, Brest, etc., ils portent des pancartes faites maison ou fournies par le barreau de Paris.
Alors on a cotisation en hausse, pension en baisse. Un marché de dupes.
Retraite sacrifiée et défense en danger. On a cotisé tais-toi.
On est prêt, il y en a 200, je pense que ça devrait aller.
Bonjour monsieur. Donc vous avez mis un t-shirt Che Guevara sur votre robe d'avocat.
Oui, parfaitement, parce que se voir spolier de 2,4 milliards qu'ont réservé nos anciens pour assurer un régime autonome de retraite, on ne se laissera pas faire. Ça fait des années que nous nous battons pour un certain nombre de choses. Ici, on vole dans notre portefeuille, ça suffit.
Spoliation, rapt, vol, les professions hétéroclites qui se retrouvent ensemble dans la rue refusent que le fruit de leur solidarité et prévoyance professionnelle ne disparaisse avec ces milliards. Jérôme est pilote.
On a une caisse de retraite qui fonctionne bien, qui est bénéficiaire. On n'a pas envie de se faire voler nos réserves et continuer à payer autant pour toucher moins.
Vous n'êtes pas dans la solidarité nationale?
Solidarité nationale, on y contribue déjà beaucoup à travers l'impôt. Donc, on trouve qu'on en fait déjà suffisamment. À la fin de la fable, normalement, la cigale, elle braque pas la fourmi.
2 milliards pour les avocats, 7 milliards pour les médecins, 5 milliards pour les pilotes. Les sommes en jeu sont colossales et prouvent la saine gestion des caisses autonomes à l'opposé du régime général, fait valoir le docteur Talbot.
L'URSSAF est un trou sans fond, une administration dans laquelle on n'a aucune prise, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas à qui s'adresser. Et dès qu'on a un problème avec l'URSSAF, c'est une horreur. La CARMF a 1,2% de frais de gestion, ce qui sont les frais de gestion les plus bas de toute la retraite complémentaire. Mais c'est pareil pour les salariés avec la GIRC et l'ARCO. Hein.
Nous ne sommes pas des régimes spéciaux, martèlent les manifestants, mais ces professions libérales n'excluent pas de s'allier un jour à eux si elles ne sont pas entendues.
Reportage Marie Viennot. L'actualité judiciaire et cette décision inédite au tribunal correctionnel de Lyon. Le juge unique a invoqué l'état de nécessité et le motif légitime pour relaxer deux décrocheurs d'un portrait d'Emmanuel Macron en février dernier. Ils étaient poursuivis pour vol en réunion à Lyon. Mathilde Imberti.
Les militants saluent une décision inédite. Le juge reconnaît dans son attendu la légitimité de l'action de ces deux Lyonnais qui, en février dernier, ont décroché le portrait du président pour dénoncer son inaction face au changement climatique. Lors de l'audience, Cécile Duflot, ex-ministre de l'écologie, avait en effet souligné que la politique ne se donnait pas les moyens de lutter. Le juge prend en compte les arguments des militants et reconnaît aux citoyens un devoir de vigilance critique. Pierre Gouinvic jubile, 500 euros d'amende avaient été requis à son égard.
C'est un délibéré historique et inédit, dans le sens que pour la première fois de l'histoire de la lutte contre le dérèglement climatique, un tribunal a reconnu qu'une action de désobéissance civile non violente était menée dans le cadre d'un état de nécessité. État de nécessité, ça veut dire qu'il y avait un lien direct entre l'action qu'on a menée, c'est-à-dire décrocher le portrait d'Emmanuel Macron pour montrer son inaction face au péril climatique, et les conséquences du dérèglement climatique.
Pourquoi cette relaxe? Aussi parce que l'action des militants lyonnais n'a pas causé de troubles à l'ordre public, elle était pacifique, relève encore le juge unique du tribunal correctionnel de Lyon. Un jugement que les décrocheurs de portraits voient comme une invitation à poursuivre leur mobilisation. Ils appellent à participer ce week-end à des marches dans toute la France contre l'inaction de la politique face au dérèglement climatique.
Mathilde Imberti, remettre la majorité en ordre de bataille. Tel était le mot d'ordre de la réunion ce soir rue de Grenelle à Paris, où étaient conviés les députés et sénateurs de la majorité pour échanger avec le président Emmanuel Macron et une large partie de son gouvernement. Déclinaison parlementaire du séminaire gouvernemental de rentrée. Avec nous pour en parler sur France Culture, Aurélien Taché, député La République En Marche du Val d'Oise. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Vous avez donc participé à cette réunion. Quel est le message essentiel que vous retenez des consignes, des conseils, peut-être l'allusion à Cédric Villani et à l'unité du parti?
Écoutez, effectivement, le président de la République a rappelé que quand on était confronté à des échéances électorales, quand on nous demandait une bataille, il valait mieux être uni que divisé. Et c'est évidemment le cas pour les élections municipales, à Paris comme ailleurs d'ailleurs. Mais plus globalement, moi, ce que je retiens du message du président de la République, c'est que finalement, on doit être unis dans un combat dont l'adversaire principal est ceux qui aujourd'hui prônent finalement un repli, une société fermée où on sortirait de l'Europe, ou en tout cas la France n'y trouverait pas sa place, où on aurait bien ces conservateurs, ces populistes, le Front National qui continuent de progresser et de faire avancer leurs idées, et que notre responsabilité était de proposer un projet de société qui amène des réponses qui détournent les Français de celles qu'amènent ces nationalistes qui veulent le déclin de notre pays.
Il y a un peu moins d'un an, les Gilets jaunes commençaient à défiler sur les ronds-points, c'était en novembre. Depuis, l'exécutif veut lancer ce qu'il nomme l'acte 2 du quinquennat. Est-ce que vous avez senti un changement dans le discours du président cette rentrée, un changement de méthode, de ton peut-être?
Oui, le président, il a très bien expliqué ce soir, et il a bien réinsisté sur le fait que pendant les deux premières années du mandat, on avait mené des réformes à tambour battant finalement, qu'on avait essayé de mener et de mettre en œuvre notre programme de manière rapide pour pouvoir finalement obtenir des résultats le plus vite possible pour nos compatriotes qui nous le demandaient. Mais que ça a pu parfois être au prix aussi d'écueils, de choses que nous n'aurions pas suffisamment vues, pris en compte. Et évidemment, le mouvement des Gilets jaunes, même si il est le résultat d'un mal plus ancien, ce qu'Emmanuel Macron a aussi rappelé, en a quand même été une criante illustration, et que on devait, pour les grands sujets qui vont être devant nous, à savoir comment on continue de permettre à chacun d'accéder au travail, comment ensuite on garantit une retraite juste et équitable à tous ceux qui là aussi ont travaillé, comment on enclenche la transition écologique ou qu'on fait face aux grands défis du monde, les migrations, la sécurité de nos concitoyens, la construction du projet européen. Et bien sur tous ces aspects-là, il faudrait être plus à l'écoute du terrain, être plus à l'écoute de ceux qui dans la société peuvent témoigner de la réalité que vivent certains Français, certaines catégories de la population, et c'est peut-être ça qui va être fondamentalement différent dans cet acte 2.
Et le grand débat se prolonge donc selon vous, selon les mots du président,
oui,
ce qu'il vous a dit ce soir.
C'est ce qu'il a dit. De toute façon, on a retrouvé finalement au moment du grand débat ce qui avait été notre force au moment de la construction du projet présidentiel en 2016-2017, et qu'on avait peut-être un peu perdu de vue pendant les deux années qui se sont écoulées entre 2017 et le grand débat, et qu'il fallait qu'on puisse maintenant garder ça chevillé au corps pour la suite du mandat.
Rapidement, on l'a entendu il y a quelques minutes, les professions libérales se sont donc mobilisées aujourd'hui pour dire non à la réforme des retraites. La majorité craint-elle un nouvel automne de contestation sociale presque un an après les Gilets jaunes? Comment vous appréhendez cet automne qui s'annonce?
Et de toute façon, sur ce sujet-là, et notamment la réforme des retraites, qui est quand même un sujet absolument cardinal, hein, on n'a jamais proposé de refondation du système de retraite aussi puissante depuis qu'elles ont été mises en place en 1945. Il faut convaincre on ne réussira pas sans convaincre les Français. Moi, je comprends qu'il y ait aujourd'hui des interrogations. On a 80% de Français qui sont en régime général et on a 20% d'entre eux qui a un régime, finalement, qui est le fruit d'une histoire, qui donne droit à des droits spécifiques, qui aujourd'hui doivent être questionnés si on veut vraiment garantir une retraite et le système de retraite par répartition pour tous les Français et augmenter les droits de ceux qui ont des carrières hachées, de ceux qui ont eu des carrières difficiles. Mais c'est logique aussi que ceux qui aujourd'hui sont dans ces régimes-là s'interrogent. Et évidemment, il y a eu ce mouvement de grève vendredi à la RATP. Quelque part, je le comprends. Et je ne comprends pas, par contre, que certains responsables politiques menacent. J'ai entendu Valérie Pécresse dire qu'elle ne voulait pas payer la RATP parce qu'ils n'avaient pas été suffisamment nombreux à travailler vendredi dernier. Ça, je reconnais bien la brutalité d'une certaine droite qui pense qu'une bonne réforme, c'est une réforme où on met l'adversaire au tapis.
Merci.
Ça ne fonctionnera pas comme ça.
Merci.
Donc, on essaiera de convaincre les Français du bien fondé de notre action.
Merci Aurélien Taché, invité du journal de France Culture. Vous êtes député La République En Marche du Val d'Oise. Les tensions dans la péninsule arabique à présent toujours aussi fortes et ce soir les États-Unis accusent de nouveau l'Iran d'être à l'origine des attaques de samedi contre l'Arabie Saoudite. Il semble que l'Iran soit responsable, déclare le président Donald Trump, mais il veut en avoir la certitude. Téhéran de son côté nie toujours. Washington annonce par ailleurs qu'il va, je cite, défendre l'ordre international sapé par l'Iran. Deux jours que l'Arabie Saoudite a été visée par des attaques de drones entravant lourdement sa production de pétrole. Conséquence immédiate de ce regain de tension dans le Golfe, les prix donc du pétrole, ils s'envolent plus 14% à la clôture du marché new-yorkais ce soir. Prévisible au regard des dégâts à cause des drones, l'Arabie Saoudite a dû réduire sa production de moitié. Et forcément, l'automobiliste français va payer l'addition à un moment, car c'est tout le marché mondial du pétrole qui est déstabilisé, explique Francis Perrin, directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de recherche internationale et stratégique.
Ce qui s'est passé a entraîné une chute de la production saoudienne de 5,7 millions de barils par jour. Ça représente 60% de la production saoudienne à son niveau de avant les deux attaques. Donc moins 60% pour la production saoudienne, qui est le troisième producteur mondial de pétrole, c'est énorme. Sur les marchés pétroliers, tout le monde s'affole. Et les Saoudiens savent très bien qu'ils ont intérêt, pour rassurer les marchés autant que faire se peut, à ne pas rester trop longtemps complètement silencieux. Mais avant de parler, il faut évidemment qu'ils aient évalué l'ampleur des dommages. Ça ne se fait pas en une minute ou en une heure. Seul Saudi Aramco est en mesure de dire « voilà l'estimation que nous avons sur la durée des réparations et le temps qu'il nous faudra pour monter à nouveau en puissance en termes de production ». Autre question importante, les Saoudiens ont dit qu'ils allaient utiliser leur stock de pétrole sur leur territoire et parfois aussi à l'étranger en Asie. Combien vont-ils prélever sur ces stocks ? Et quand ? Beaucoup, beaucoup d'incertitudes.
Francis Perrin, directeur de recherche à l'IRIS, il répondait à Anne-Laure Jumet. Bis repetita demain en Israël, deuxième élection législative en l'espace de 5 mois dans le pays. Et surtout l'heure de vérité pour Benjamin Netanyahou, le premier ministre qui joue sa survie politique. En avril dernier, il semblait avoir remporté haut la main le scrutin avec ses alliés de droite, mais il ne trouvait pas d'accord pour former une coalition. Cette campagne est en tout cas inédite pour de nombreuses raisons. C'est l'avis de la journaliste politique israélienne Rina Matzila.
Les sondages ont échoué la dernière fois. Même si on veut parler sur les sondages, on ne voit rien de très clair. Parce qu'on n'a pas ni Gantz ni Netanyahou pour créer un gouvernement. On ne sait pas vraiment la participation. Et ça, c'est quelque chose de très important.
C'est la première fois que vous voyez une élection aussi compliquée ?
Compliquée, non, mais imprévisible et dégoûtante, peut-être.
Oui. Dégoûtante ?
Oui, dégoûtante.
Pourquoi ?
Parce que les élections qui viennent un après l'autre, les politiciens deviennent plus nerveux, plus agressifs, des fois les journalistes aussi. Ça fait que les expressions sont plus violentes. Ça fait que l'atmosphère est plus moche. Ça fait que on se dégoûte.
Un propos recueilli par notre correspondant à Jérusalem, Frédéric Mettezo. La météo, enfin, demain, mardi, encore une très belle journée. Le matin, grand soleil en dessous d'une ligne allant de Nantes à Montbéliard. Quelques nuages dans le nord et un peu de pluie sur la Bretagne. Ça se découvre encore un peu plus dans l'après-midi. Bonne nouvelle, côté température. On est au-dessus des normales de saison. Le matin, vous aurez 19 à Paris, 17 à Lille, 19 à Caen, 21 à Tours, déjà 28 degrés à Perpignan. L'après-midi, 18 à Cherbourg, 23 dans la capitale, 27 pour Marseille et Ajaccio. La maximale, ce sera pour Bordeaux, 31 degrés.